Oui, je suis en ligne avec Aurélien Pradier. Bonjour Aurélien Pradier, bienvenue sur Radio Présence.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Avec joie, vous êtes député du Lot et avez travaillé dur, bataillé dur, je dirais même, au sein de votre groupe parlementaire Les Républicains pour défendre certaines dispositions de la réforme des retraites. Vos prises de position divergentes ont conduit Éric Ciotti à vous retirer la vice-présidence du parti. C'était dimanche dernier. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit êtes-vous?
Je pense que la politique, c'est d'abord une affaire de courage et parfois même d'honneur. J'ai défendu des causes auxquelles je crois, comme je l'ai toujours fait, la cause des carrières longues en particulier, de ceux qui ont commencé à travailler tôt. J'ai reçu pas mal de menaces, d'intimidations politiques depuis quelques semaines, mais moi j'ai toujours préféré la défense de mes convictions à un poste quelconque. Et donc les choses étaient très claires depuis le début. Je n'avais pas l'intention de céder aux petites menaces pour abandonner les convictions auxquelles je crois. Et d'ailleurs, ces convictions, elles ont commencé à payer, puisque sur les carrières longues, on a beaucoup obtenu de la part du gouvernement. Il reste encore beaucoup de choses à obtenir et c'est le combat que je vais mener. Je suis à la fois très serein, très fier d'avoir mené cette bataille. Et je me dis que la belle politique, c'est celle qui défend des idées, pas celle qui défend des postes.
Voilà, donc vous êtes droit dans vos bottes et dans votre communiqué de presse du 19 février, vous citez Louis Barthou, qui est un homme politique du Béarn, de la Troisième République. Il dit « La peur des coups n'est pas toujours le commencement de la sagesse. Il faut souvent, dans l'intérêt public, se décider à emporter et se résigner à en recevoir. » Est-ce que ce coup reçu va vous pousser à quitter les Républicains?
Non, je vais rester fidèle à ma famille politique parce que la fidélité politique, c'est quelque chose auquel je crois aussi. Le président des Républicains a pris une décision assez difficile à comprendre, mais ça, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que je puisse continuer à m'engager pour les Français. Je le ferai au sein de ma famille politique avec de la liberté, y compris une liberté de ton. Je pense que les valeurs que j'ai défendues, et je suis pas le seul d'ailleurs, puisque ces valeurs-là, elles ont été défendues par beaucoup de députés Les Républicains, sont des valeurs qui correspondent au respect de l'effort, du travail. Et ça, pour moi, c'est absolument essentiel. Donc, je vais rester au sein de cette famille politique, continuer à mener ses engagements, et puis peut-être à faire de la politique un peu différemment, un peu autrement, ce qui est aussi, à mon avis, une des attentes de nos concitoyens.
Alors, évidemment, votre dernière remarque me suscite une question. Comment vous envisagez la politique dans les jours à venir, alors?
Écoutez, dès ce soir, je reviens devant les militants de ma famille politique. Je serai près de Bordeaux pour rencontrer celles et ceux avec qui j'ai toujours travaillé, avec qui je vais continuer à travailler. Je vais revenir vers la base. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien de Français que je ne connais pas souvent, anonymes, qui n'ont pas toujours mes idées politiques, mais qui me disent aussi respecter une forme de comportement droit en politique. Donc je vais continuer à mener ces batailles sur le terrain. Je serai tout à l'heure à Sciences Po à Bordeaux pour parler à des étudiants. Je vais continuer à me faire entendre. C'est le début d'un chemin aussi pour moi. C'est un moment qui, je pense, est un virage. Au fond, peut-être que ceux qui pensaient me tordre le bras m'ont un peu rendu service en me permettant de voler de mes propres ailes et puis de continuer à me battre pour des convictions auxquelles je crois. Donc ça, c'est ce que je vais continuer à faire comme député, inlassablement, pendant les semaines, les mois et les années qui viennent.
Alors, vous l'évoquiez, Aurélien Pradier, lors des débats à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, vous avez âprement défendu ceux qui ont des carrières longues. Le dispositif va donc être adapté pour que les actifs ayant commencé à travailler tôt n'aient pas à cotiser plus de 43 annuités. Qu'espérez-vous maintenant de la poursuite des débats au Sénat qui vont avoir lieu la semaine prochaine?
On a encore des choses à régler. D'abord, sur les carrières longues, il faut aller au bout du bout. Il se trouve que la Première ministre a indiqué que pour ceux qui avaient commencé à travailler à 17 ans, il y avait une évolution, mais on a encore un problème avec ceux qui ont commencé à 14 ans, à 16 ans, à 18 ans, qui vont devoir travailler un an de plus que les autres. Et moi, je considère que c'est tout à fait injuste. C'est pas la bonne manière de respecter le travail. Donc, il faut finir ce combat-là. Finir ce travail pour faire en sorte que les carrières longues soient préservées. Et
Donc
puis,
vraiment, vraiment se focaliser sur les annuités et non pas sur un âge de retraite final.
pour moi, c'est la bonne réforme des retraites. En réalité, c'est celle qui se focalise sur la durée de cotisation et pas sur l'âge légal. Je trouve que l'âge légal est hypocrite, que c'est une manière aussi d'attiser les divisions dans le pays, alors que nous n'avons pas besoin de ça. La durée de cotisation, qui consiste à dire dès que vous avez fait vos 43 annuités de cotisation, c'est ce qui se passe aujourd'hui, vous pouvez partir à la retraite. Si vous avez commencé tôt, vous finissez tôt. Ça me paraît la règle la plus juste et la plus lisible. Mais il va falloir travailler aussi sur les carrières des femmes, sur la politique familiale. On oublie souvent de le dire, mais nous avons besoin d'une vraie politique familiale dans notre pays, de s'assurer que les carrières des femmes, qui sont souvent des carrières hachées et difficiles, ne soient pas défavorisées dans cette réforme des retraites. Ça, ce sont toutes les batailles des jours qui viennent. Et je peux vous dire que j'ai 15 jours encore de débat, que je vais les mener jusqu'au bout, et que mon vote final sur la réforme des retraites, il sera conditionné à ces avancées-là. S'il n'y a pas suffisamment d'avancées, je l'ai dit depuis le début et ma parole ne change pas, je ne voterai pas cette réforme des retraites.
Alors à propos de la réforme des retraites qui concerne les femmes, c'est vrai que 52% des femmes retraitées perçoivent une pension mensuelle inférieure à 1 000 euros contre 20% des hommes. Ça, c'est l'étude d'impact du gouvernement qui a été publiée en janvier dernier qui le dit. Et pourtant, les congés parentaux vont être pris en compte. Est-ce qu'il... Alors, vous voulez aller plus loin, mais dans quel sens ?
C'est toute la question, il faut trouver des solutions. Aujourd'hui, on a une vraie disparité entre les femmes qui ont eu des enfants, la plupart du temps, et les autres travailleurs dans notre pays ou les autres retraités. La question, c'est par exemple de se dire que dès 65 ans, une femme doit pouvoir partir à la retraite à taux plein, plutôt que d'attendre 67, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'âge d'effacement, les 67 ans. On pourrait, dès lors qu'une femme a eu un ou deux enfants, ou davantage, lui permettre de partir plutôt à taux plein. Ça, ce sont des débats qu'il faut que nous ayons, parce que aujourd'hui, on le sait, cette réforme des retraites, elle va plus impacter les femmes que les hommes, et ça, c'est tout à fait insupportable, d'autant que nous sommes dans un pays où nous avons besoin de soutenir la natalité, de soutenir la fondation de famille, de faire en sorte que notre pays retrouve une dynamique démographique qu'il n'a pas comme il devrait l'avoir. Tous ces combats sont des combats que nous avons à mener. Moi, ce qui m'inquiète avec cette réforme des retraites, c'est qu'elle a été mal préparée, qu'elle est très injuste à bien des égards, et qu'on a le sentiment que le président de la République veut tout faire pour dresser les Français les uns contre les autres. Alors je pense qu'on est à un moment où on a besoin de réunir les Français plutôt que de les diviser.
Oui, là, les circonstances de guerre en Ukraine, d'incertitude, d'inflation, de boucliers ici énergétiques sont anxiogènes effectivement pour les Français. Autre sujet de combat dans cette réforme des retraites, l'index senior qui a fait son retour dans l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative, il ne concernera plus uniquement les entreprises de plus de 300 salariés, mais aussi celles de plus de 50 employés. Et finalement, ça va changer la donne, notamment pour vous qui êtes député du Lot, Aurélien Paradier, puisque avec une population de plus de 60 ans qui augmente dans le Lot, qu'est-ce que vous pensez de cette modification ?
L'index senior, il faut comprendre ce que c'est. C'est pas du tout une solution, c'est un thermomètre. Et donc, en fait, on va demander aux entreprises de mesurer la situation dans leur entreprise. Honnêtement, ça ne changera absolument rien à l'emploi des seniors. Moi, j'étais favorable à ce qu'on ait notamment une baisse des charges pour les seniors, pour faire en sorte que celles et ceux qui aujourd'hui sont considérés comme des seniors, qui en réalité peuvent amener encore beaucoup à la vie d'une entreprise, puissent être maintenus dans le marché du travail. La réalité, c'est que cet index senior, pour moi, c'est de la poudre de perlimpinpin. On va l'appliquer à des petites entreprises qui sont pas souvent d'ailleurs celles qui sont les moins exemplaires. La plupart du temps, ce sont les très grandes entreprises qui ont tendance à mettre dehors des collaborateurs dès qu'ils ont passé la cinquantaine. Je caricature un peu, mais en tous les cas, c'est souvent dans les plus grandes entreprises que les chiffres sont mauvais en termes d'emploi des seniors. Donc je veux qu'on puisse préserver aussi les petites entreprises et qu'on trouve des solutions qui soient des solutions plus efficaces pour que celles et ceux qui ont une expérience soient maintenus dans l'emploi. C'est là qu'on voit aussi toutes les fragilités de cette réforme des retraites, c'est qu'en fait, elle ne règle pas les vrais problèmes.
Le débat sur la réforme des retraites a mis en lumière une réflexion un petit peu plus profonde sur le rapport au travail. Quelle en est votre analyse ?
Je pense que c'est un sujet qu'on doit aborder avec beaucoup de sérieux et beaucoup de gravité. Le travail, pour moi, c'est ce qui permet de se réaliser, c'est ce qui permet de trouver une discipline dans sa vie et de faire en sorte aussi de s'épanouir. Alors, c'est pas toujours simple parce que on choisit pas toujours le métier qu'on exerce. Il y a souvent des grandes disparités entre ceux qui ont choisi leur métier, qui font un métier qui les passionne, et puis ceux sont obligés de faire le métier qu'ils font, qui le subissent. Et on doit respecter ces disparités-là. Moi, je refuse qu'on ait un débat binaire entre ceux qui refuseraient le travail, ceux qui plaideraient pour le droit à la paresse, et ceux qui refuseraient aussi qu'on améliore les conditions du travail. Je pense qu'il y a une solution intermédiaire, un débat intermédiaire qu'on doit trouver, qu'on doit améliorer les conditions du travail, peut-être même l'aménagement du temps du travail, qu'on doit travailler davantage, mais qu'on doit travailler mieux. Et ça, c'est un débat qui a toujours animé nos sociétés depuis des décennies et des siècles, de faire en sorte que on ne travaille pas moins, mais qu'on travaille mieux, que les conditions de travail soient meilleures. Et vous voyez, ma famille politique, la droite, sur des sujets comme ça, elle ne dit rien aujourd'hui. Il n'y a que Madame Rousseau qui dit des choses et qui souvent les dit avec une caricature extrême. Et moi, je pense que la droite, elle doit aussi aller sur ces sujets, proposer par exemple que sur une semaine de travail, il y ait peut-être une journée supplémentaire de libre, mais que les autres jours, on travaille davantage. Faire en sorte que tout au long de la vie, on travaille un peu plus plutôt que d'allonger l'âge légal de départ à la retraite. Tous ces débats-là, j'assume parfois de perturber un peu ma famille politique, mais aussi d'ouvrir ces débats-là, parce que si on arrête de réfléchir sur ces questions, je pense qu'on ne fera plus progresser notre société.
Oui, donc encore de nombreux sujets que vous mettez sur la table. Je voudrais qu'on profite de ces 3 dernières minutes pour aborder un autre sujet qui vous tient à cœur. C'est votre participation au débat sur le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. C'était en début d'année, mais c'est vrai que vous êtes intervenu pour défendre notamment l'hydroélectricité. Dans ces débats, il a été bien sûr question de l'éolien, du photovoltaïque. Qu'est-ce qu'il convient de développer urgemment pour vous ?
J'ai sur ce sujet une vision qui est une vision en réalité gaulliste. Lorsque le général de Gaulle a fondé l'autonomie énergétique de notre pays, il l'a fait par le nucléaire, mais il l'a fait aussi par l'hydroélectricité qu'on oublie trop souvent. L'hydroélectricité, ce sont nos barrages, c'est une énergie propre, puisque c'est l'eau, c'est une énergie renouvelable, qu'on a peu à peu abandonnée au profit de l'éolien, qui pour moi est une erreur absolue, parce que le modèle économique n'est pas tenable, parce que l'impact sur nos paysages est grave. Et donc j'ai plaidé pour qu'on conserve nos barrages dans le monopole de l'État, que ce soit la propriété de la nation, et que nous réinvestissions massivement. Vous savez que si on réinvestit dans nos barrages, on peut gagner jusqu'à l'équivalent d'une part de nucléaire en termes de production, ce qui est absolument gigantesque. Et beaucoup de pays ont redéveloppé l'hydroélectricité. La France a une ressource magnifique avec l'hydroélectricité, un vrai savoir-faire industriel. Et donc j'ai plaidé pour que nous avancions sur ce sujet-là. Voilà, c'est aussi le rôle d'un responsable politique. Et c'est pour ça que ma parole, elle est parfois un peu différente des autres. C'est qu'il faut aussi qu'on soit capable d'explorer des chemins qu'on a abandonnés.
Oui, mais un barrage hydroélectrique fonctionne avec de l'eau et en ce moment, on a quand même un niveau assez bas, puisque Info Sécheresse précisait que sur les 422 nappes recensées, 125 sont à un niveau très bas. Comment on va faire de l'électricité si on n'a pas assez d'eau ?
Vous avez raison, on a un problème d'accès à l'eau, d'économie de l'eau, mais vous savez qu'avec nos barrages aujourd'hui, et avec la petite hydroélectricité, celle qui est sur nos rivières, on arrive à faire de la production d'électricité, même avec un niveau d'eau assez bas. Moi, je ne crois pas aux immenses barrages comme on l'a fait il y a quelques décennies. Je crois à la petite hydroélectricité qui, petitement, l'une après l'autre, l'une avec l'autre, permet d'avoir une production énergétique élevée. En fait, ce que je vous dis, c'est ce que d'autres pays font. Les Allemands, aujourd'hui, n'investissent plus massivement dans des très grands barrages, mais ils font de la petite hydroélectricité avec des petites turbines. Et c'est une manière aussi de retrouver une production énergétique fiable pour l'avenir.
Voilà, il est temps de conclure notre entretien. Merci beaucoup, Aurélien Pratier, député du Lot et conseiller régional d'Occitanie, d'être au micro de Radio Présence.